les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Chers auditeurs, bonjour, 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 bienvenue dans les portes de la connaissance, et oui, encore une émission, et cette émission, cette fois, c'est avec Dominique Lormier. Vous avez l'habitude de la voir à la radio, il fait des émissions et il n'en fera pas qu'une seule, il en fera d'autres avec nous, il va en faire de nombreuses parce qu'il a écrit de nombreux ouvrages. Et voilà, donc on va continuer l'histoire avec lui, puisqu'on avait vu, la dernière fois qu'on s'était eu, on avait eu l'émission sur sa vie de réincarnation, puisqu'il avait vécu, il avait parlé de ses réincarnations, enfin il avait parlé de ses vies antérieures exactement. C'était quoi le titre du livre sur les...
Sur les traces de mes vies antérieures. Voilà. Est paru chez Symbiose Éditions, il est sorti là cette année, hein. Voilà. Donc on le trouve partout en librairie.
Bon voilà, on avait eu cette émission.
Voilà, et on peut également le commander sur internet, on le trouve aussi.
Et on avait eu le grand livre des fantômes dont on avait parlé il n'y a pas longtemps.
Voilà, aux éditions Trajectoire, on peut le commander sur internet.
Hein. Bon d'accord, voilà, donc on a eu ces deux grands livres. Et aujourd'hui, on va aborder un thème. On va aborder pendant plusieurs émissions des thèmes sur la Deuxième Guerre mondiale. Et on aura d'autres émissions sur d'autres thèmes, sur d'autres guerres. Là, il s'agit des vérités cachées sous l'occupation. Voilà.
Voilà, les vérités cachées de la France sous l'occupation, c'est paru aux éditions du Rocher, on le trouve en librairie, donc il est en format normal et également en format poche. D'accord. Voilà. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je regarde la date de sa parution, mais en poche on le trouve également, mais on le trouve également en grand format. Il est sorti en 2021 et en poche il est sorti 2 ans après, donc on le trouve facilement, soit en librairie, on peut le commander ou le trouver en librairie, ou le commander sur internet, hein, et voilà, il est facile d'accès.
Bon, parfait, très bien. Alors, les vérités cachées sous la France sous l'occupation. Alors, pourquoi les vérités cachées de la France sous l'occupation? Pourquoi exactement?
Ben, disons qu'il y a pas mal de faits qui demeurent soit méconnus ou qui ont été détournés, je dirais, de la réalité des faits historiques. Et je démarre notamment avec la figure de Pétain, où je mets avec un point d'interrogation, traître ou bouc émissaire. Et en vérité, il est un peu les deux à la fois, c'est ce que je présente dans le livre. Bon, je trace là dans ce chapitre un peu le déroulé de la vie de Pétain, qui a été un des brillants chefs durant la Première Guerre mondiale. C'est lui qui a été un des organisateurs de la victoire de 1918, hein. Et c'était un chef militaire qui était préoccupé de la vie de ses hommes, donc il était opposé aux offensives suicidaires comme elles avaient eu lieu durant l'année 1915. Hein. D'ailleurs, un des seuls faits d'armes véritablement de l'année 1915, ça a été la conquête de la crête de Vimir, qui avait été reprise par le 33e corps de Pétain et qui n'a pu être exploité malheureusement puisqu'il y avait des divergences entre Joffre et Pétain, ils étaient un peu en rivalité. Ensuite, c'est lui qui a pris en main, je dirais, la défense de Verdun. Il y a eu trois personnes essentielles dans le déroulé de la bataille de Verdun, et il y a eu le général de Castelnau, qui a organisé, je dirais, les prémices de la défense de Verdun. Ensuite, Pétain qui a pris la suite au moment de l'offensive allemande et qui a réussi à constituer, je dirais, un service de ravitaillement qui a été très efficace avec la constitution de ce qu'on appelait la voie sacrée, c'est-à-dire une voie qui permettait de ravitailler les troupes en première ligne et également de permettait justement de changer les régiments, les mutations d'une manière assez rapide. Si bien que les troupes françaises qui se trouvaient à Verdun étaient régulièrement ravitaillées et régulièrement changées, à contrairement aux unités allemandes qui sont restées rivées durant plusieurs mois durant la bataille de Verdun en 1916. Donc ça a été l'organisateur véritablement de la défense de Verdun avec succès. Et puis il a eu ensuite comme successeur le général Nivelle, lui qui a permis de reprendre le terrain qui avait été perdu durant l'hiver 1916, terrain repris durant le printemps et l'été 1916, ce qui a permis à l'armée française de remporter une victoire totale, puisque les Français ont reconquis le terrain en l'espace d'un mois que les Allemands avaient mis 6 mois à conquérir. Avec des pertes à peu près équivalentes dans les deux camps. Il y a eu 422 000 soldats français tués ou blessés à Verdun durant l'année 1916 et 420 000 du côté allemand. Donc des pertes à peu près équivalentes. Et je dirais un bilan d'autant plus remarquable pour les Français, c'est que les Allemands avaient le double d'artillerie, notamment en artillerie lourde. Et malgré ça, je dirais la résistance héroïque des poilus a permis aux troupes françaises de tenir en échec véritablement les Allemands. Ensuite, Pétain était l'artisan de la victoire de 1918. C'est lui qui va organiser et planifier les réserves stratégiques qui vont permettre de contenir les offensives allemandes. Il faut savoir qu'en 1917, la Russie, qui était notre allié, abandonne, je dirais, le combat contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et puisqu'elle est, je dirais, marquée par une guerre civile et qui va mettre en place, je dirais, ce qu'on a appelé les bolcheviks, c'est-à-dire le communisme. Et la fin du tsarisme. Et à ce moment-là, donc, la Russie signe une capitulation avec l'Allemagne à Brest-Litovsk, ce qui va permettre aux troupes allemandes d'engager de toutes leurs forces sur le front français en 1918 et lancer d'abord deux offensives en mars et avril dans les Flandres et également en Picardie, où le front anglais sera enfoncé. C'était le secteur tenu par les troupes britanniques qui combattaient à nos côtés. Et Pétain avait organisé une réserve stratégique de 40 divisions françaises au cas où les Allemands perceraient le front. Et il faut savoir que les Français avaient particulièrement développé les voies ferroviaires et également toute la motorisation de la troupe. L'armée française était la mieux motorisée du monde à l'époque. Il y avait un véritable renouvellement de l'armée française à ce moment-là, ce qui a permis aux Britanniques d'être sauvés par l'engagement de ces 40 divisions françaises qui avaient été maintenues en réserve et qui tenaient donc le front en Picardie et dans les Flandres. Donc en mars et avril, les deux offensives allemandes, après une percée spectaculaire, sont des échecs du fait de l'entrée en ligne des troupes françaises. Ensuite, les Allemands veulent s'en prendre aux troupes françaises en Champagne. Donc ils vont lancer une offensive également extrêmement puissante durant la période du printemps et de l'été 1918, qui va aboutir à la deuxième bataille de la Marne et qui sera également remportée finalement par les troupes françaises. Et les Allemands perdent à ce moment-là l'initiative des opérations militaires. Ils sont contraints uniquement, je dirais, à mener une guerre défensive. D'autant plus qu'il y a l'entrée en lice également des renforts américains. Il y aura au mois de novembre 1918... 16 divisions américaines en première ligne et une trentaine maintenues en réserve qui pourront entrer en lice à partir du mois de mars 1918, mais elles ne pourront pas être engagées à temps. Et c'est surtout les 111 divisions françaises et les 68 des divisions britanniques qui vont tenir tête aux troupes allemandes et contraindre l'Allemagne à signer un armistice en novembre 1918, puisqu'à partir du 14 juillet 1918, l'initiative des offensives est du côté des Alliés, avec les Français et les Britanniques, qui vont mener des offensives qui vont reconduire les Allemands jusqu'à la frontière belge, jusqu'à la frontière de la Belgique. Si bien que les Allemands, à ce moment-là, sont totalement, je dirais, épuisés, ils ont subi des pertes terribles. Rien que durant l'été 1918, ils vont perdre 400 000 hommes uniquement contre l'armée française. Donc, ils sont contraints de signer un armistice à ce moment-là. Et Pétain a été véritablement un des organisateurs de la résurrection de l'armée française, et puisqu'il a constitué des réserves stratégiques qui ont permis de mettre en échec les troupes allemandes. Donc, à ce moment-là, il est véritablement auréolé d'une gloire, prestigieuse. Il est fait maréchal de France. Il va défiler le 11 novembre aux côtés de Foch et de Joffre. Et il est véritablement, je dirais, une des figures emblématiques avec ces deux autres maréchaux de l'armée française qui, à ce moment-là, est en 1918 considérée comme l'armée la plus puissante et la meilleure du monde. La France brille également par son empire colonial, c'est le deuxième empire colonial, donc elle avait des positions, je dirais, stratégiques dans le monde entier, et avec une marine qui est également la troisième après celle des Britanniques et des Américains, et qui va connaître un renouveau à partir des années 30, avec également une modernisation considérable de cette marine. Donc Pétain, à ce moment-là, il va être ministre de la Défense durant une partie des années 20 et 30. Il a un énorme prestige, même au sein de la gauche, hein, puisque même Léon Blum reconnaîtra que c'est le plus républicain de nos maréchaux. Là-dessus, il va se tromper lourdement, parce qu'on verra par la suite qu'il avait des velléités de pouvoir et surtout des idées extrêmement à droite. Et on va le voir avec l'armistice de 1940. Alors Pétain était hostile à une entrée en guerre de la France en 1931. Il considérait que la France n'était pas prête à mener une guerre contre les Allemands. Malheureusement, la suite lui a donné raison à ce niveau-là. Il était à ce moment-là ambassadeur à Madrid, donc il a poussé Franco à ne pas rentrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Et il est appelé au gouvernement en juin 40 pour, vice-président en tant que, je dirais, adjoint de Paul Reynaud, en second de Paul Reynaud, qui était le chef du gouvernement à ce moment-là. L'armée française est en extrême difficulté, et il va être un des artisans de l'armistice. Il estime qu'il faut signer un armistice avec l'Allemagne. Il rentre en conflit avec le général de Gaulle, alors que le général de Gaulle avait été un de ses poulains, puisque le général de Gaulle avait été sous les ordres de Pétain au 33e régiment d'infanterie avant la Première Guerre mondiale. Pétain était colonel à l'époque, mais néanmoins il va y avoir des dissensions entre les deux hommes, alors qu'il y avait beaucoup d'estime durant la Première Guerre mondiale, et d'autant que de Gaulle a été fait prisonnier à Verdun en 1916, donc il passe le reste de la guerre en captivité en Allemagne. Il va faire plusieurs tentatives d'évasion. Et durant les années 20 et 30, de Gaulle est un précurseur de l'utilisation des unités blindées avec le général Étienne, qui avait été également un des, je dirais, précurseurs véritablement novateurs dans l'utilisation des chars d'assaut. Et Pétain, à cette époque-là, avait soutenu aussi bien Étienne que le jeune capitaine de Gaulle à ce niveau-là, qui deviendra ensuite colonel. Il y aura une brouille ensuite entre les deux hommes pour des histoires, Pétain a écrit des livres, mais il utilisait ce qu'on appelait des nègres à l'époque, c'est-à-dire des auteurs qui écrivaient sous le nom de Pétain, mais Pétain n'avait pas écrit ses livres. Il y avait un livre qui devait paraître sur l'histoire de l'armée française qui avait été entièrement écrit par De Gaulle durant les années 30, et Pétain et De Gaulle voulaient quand même qu'il y ait la préface de son nom, bien que le livre soit sous le titre de Pétain. Mais or, c'était en vérité De Gaulle qui avait écrit le livre. Donc les deux hommes se sont brouillés pour cette histoire, et ils vont se brouiller par la suite, parce que De Gaulle a une vision en juin 40, ou au moment où il rejoint l'Angleterre et s'oppose à l'armistice. Il a une vision stratégique du conflit. Il estime que l'Angleterre a les possibilités de pouvoir poursuivre la guerre avec son empire colonial, la France aussi avec son empire colonial. Donc il est hostile à l'armistice, même si la guerre est perdue en métropole. Je pense que la France peut poursuivre la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne, avec, du fait de son immense empire colonial et de sa marine quasiment intacte, et du fait également qu'une partie de son aviation a été reconstituée et pourrait continuer la guerre en Afrique du Nord. Et Pétain, lui, est bien sûr partisan de l'armistice. Il a un esprit revanchard, puisqu'il a été mis un peu de côté un peu dans les années 30, et puis il a une attirance et une appétence pour le pouvoir politique. À ce moment-là, il va être nommé par la Chambre des députés puisqu'il va obtenir les pleins pouvoirs en juillet 1940, une chambre issue en grande partie du Front populaire, avec néanmoins Léon Blum fait partie des hommes politiques qui ont refusé de lui donner les pleins pouvoirs, mais d'autres, dans leur majorité, ont voté pour lui du fait de la situation de la France qui est occupée par l'Allemagne, et que la France parvient quand même à conserver un territoire, une zone sud, dite libre, entre guillemets, et qui est sous la tutelle du gouvernement de Vichy. Donc c'est Vichy, véritablement, qui dirige la zone sud, et la zone nord, c'est-à-dire la moitié du territoire national, se trouve en zone occupée par les Allemands. Il y a même une zone interdite, c'est-à-dire et une zone annexée, c'est-à-dire l'Alsace et la Lorraine, qui redeviennent malheureusement allemandes durant l'occupation, et donc font partie du Reich allemand, et une partie du nord de la France qui est rattachée à la commandature de Bruxelles, et sous la houlette également des Allemands. Donc c'est une France qui est donc coupée en deux, puis il y a une partie du territoire dans le sud-est de la France qui est occupée par des troupes italiennes également, mais qui ne sont pas allées très loin puisqu'elles ont été contenues durant la bataille des Alpes en juin 1940. Et Pétain là en profite pour installer véritablement un régime autoritaire où les partis politiques sont abolis, le Parlement n'a plus aucun rôle, il s'abroge la totalité des pouvoirs, il installe un pouvoir politique qui est inspiré par le régime de Franco en Espagne et de Salazar. C'est un régime nationaliste, autoritaire, mettant fin à la démocratie, aux valeurs de la République, puisque la liberté, l'égalité et la fraternité sont remplacées par travail, famille, patrie. Et également, il va aussi s'arroger des pouvoirs, d'autres pouvoirs à tous les niveaux, pouvoirs législatifs, pouvoir également au niveau de l'exécutif, hein, il a quasiment tous les pouvoirs entre sa main. Il met en place un gouvernement qui est en grande partie issu de gens qui viennent de la droite maurassienne, de l'extrême droite, mais il y a également aussi, il faut le remarquer, des hommes de gauche aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait parmi une partie de la gauche républicaine beaucoup de pacifistes. Et ils ont été tellement pacifistes, je dirais, une partie de la gauche, qui se sont engagés dans la collaboration et ont soutenu le régime de Pétain. Donc c'est à la fois un pouvoir où on en trouve des fonctionnaires qui étaient en place sous la Troisième République. Il y a également des politiques qui sont issues de l'extrême droite nationaliste et qui sont antisémites, et également des gens qui sont issus de la gauche. Voilà. Donc c'est un peu une auberge espagnole, ce régime de Vichy. Donc il y a d'ailleurs deux grandes catégories. Il y a des revanchards qui utilisent, je dirais, le régime de Vichy pour préparer la revanche contre les Allemands. C'est le cas du général Weygand, qui sera le chef des armées un temps en zone sud, mais qui est véritablement germanophobe. Mais il est également antisémite aussi, hein. Il y a un fort penchant antisémite chez Weygand, et que l'on retrouve dans le régime de Vichy, puisque le régime de Vichy installe véritablement un régime antisémite d'État, avec des lois antisémites qui sont promulguées en octobre 1940, et qui vont mettre, je dirais, au rebut, je dirais, d'abord les Juifs étrangers qui sont enfermés dans des camps d'internement en zone sud, mais également les Juifs français qui ne peuvent plus exercer certaines professions. C'est-à-dire des professions libérales, des professions intellectuelles. Ils ne peuvent plus exercer des professions au sein de la police et de l'armée, donc ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Néanmoins, Pétain va s'opposer quand même au fait que les Juifs français soient contraints de porter l'étoile jaune en zone sud. Il va s'y opposer. Il va également s'opposer au fait qu'on enlève la nationalité aux Juifs français. Donc il fait un distinguo entre les Juifs étrangers qui sont, je dirais, qui peuvent être déportés et les Juifs français qui généralement seront protégés, puisqu'il y aura à peu près 50% des Juifs étrangers qui seront déportés avec par les Allemands, mais avec le soutien également du régime de Vichy, et à peu près 90%, entre 90 et 95% des Juifs français qui seront préservés de la déportation du fait que Pétain s'est opposé au fait qu'on leur enlève la nationalité française. Néanmoins, il a quand même instauré un régime d'État antisémite, ce qui a favorisé, bien sûr, la déportation des Juifs étrangers et de certains Juifs français. Donc il y a véritablement, je dirais, une abomination à ce niveau-là concernant le régime de Vichy. Et le régime de Vichy, c'est un peu le pouvoir, une auberge espagnole, donc on retrouve des antisémites germanophiles et qui veulent une alliance totale avec l'Allemagne hitlérienne. Pétain sera un peu en retrait par rapport à ça. Il va surtout, je dirais, promouvoir une collaboration économique avec l'Allemagne hitlérienne, qui va énormément favoriser les Allemands, une collaboration du travail également. Il y aura d'abord l'instauration du travail volontaire en Allemagne, puis après le STO, le service du travail obligatoire, à partir de 1942, où il y aura 600 000 Français qui vont aller travailler en Allemagne, dans le cadre du STO, le service du travail obligatoire. Et il faut savoir également ce qu'il y a eu sur les 1 500 000 soldats français prisonniers et retenus en Allemagne. Il y en aura à peu près plus de 600 000 qui vont être libérés dans le cadre soit de la relève ou du cadre du service de travail obligatoire. Alors la relève, c'était généralement un Français qui partait travailler en Allemagne pour trois Français qui partaient travailler en Allemagne pour permettre la libération d'un prisonnier de guerre français. Il y a eu 45 000 Français qui sont partis volontairement travailler en Allemagne sur les 200 000 attendus par les Allemands et les 600 000 autres dans le cas du STO. Et au printemps 1942, il y a 170 000 Français qui travaillent en France dans les services de la Wehrmacht, 275 000 qui participent à la construction d'aérodromes et de fortifications comme le mur de l'Atlantique et 400 000 à la fabrication d'armements. Alors, on ne peut pas les considérer évidemment comme des collaborateurs. Souvent, ils le font pour survivre, pour des raisons économiques. Mais on estime qu'à peu près, il y a eu à peu près 300 000 Français qui, à des degrés divers, ont soutenu soit politiquement ou militairement le régime de Vichy. Il y aura l'instauration également de la Légion volontaire des volontaires français qui iront se battre au sein de l'armée allemande. Il y aura à peu près entre 30 000 et 40 000 Français qui se battront dans les rangs en armée allemande. Et à partir de 1944, il y aura même la constitution d'une division Charlemagne, la division Waffen-SS Charlemagne, qui regroupera à peu près 9 000 hommes qui iront se battre également contre l'armée soviétique sur le front de l'Est. Néanmoins, il y a eu quand même 1 425 000 Français qui, de manière échelonnée, ont soit combattu dans les rangs de la résistance, soit dans les maquis, soit dans les forces françaises libres, ou soit au sein de l'armée d'Afrique. Donc sur à peu près 300 000 Français ayant collaboré politiquement ou militairement aux côtés des Allemands, il y en a eu 1 425 000 qui ont rejoint par contre les rangs de la résistance. À partir de 1942, avec l'invasion de la zone libre, le régime de Vichy est totalement discrédité à ce moment-là, même si les Français étaient plutôt maréchalistes durant la période de 40-42, mais ils n'étaient pas vichistes. C'est un distinguo qu'il faut faire. Les maréchalistes ont une certaine estime pour Pétain sans adhérer au régime de Vichy, et les vichistes adhèrent au régime de Vichy et à la collaboration avec l'Allemagne. Voilà. Et Pétain, finalement, va être arrêté par les Allemands et envoyé à Sigmaringen en Allemagne à partir de 1944 du fait du débarquement des Alliés en Normandie suivi de celui de Provence au mois d'août 1944 où va s'illustrer l'armée française d'Afrique notamment. Et il est envoyé en Allemagne et à ce moment-là, il se considère comme un prisonnier, un otage d'Hitler. Et finalement, il parvient à obtenir, à pouvoir se réfugier en Suisse. Puis finalement, il se ravise et il demande à être jugé en France. Alors que de Gaulle s'en serait bien passé, et finalement il ne sera pas condamné à mort, mais à la prison à vie, du fait de son grand âge, et il sera enfermé, notamment à l'île de Ré, où il va décéder là-bas, voilà, et finalement il sera reconnu comme ayant collaboré, ayant été un des moteurs de la collaboration avec l'Allemagne. Donc il a été à la fois un traître et en même temps un bouc émissaire, donc d'une certaine manière, parce qu'on voit à côté de ça que beaucoup de personnes qui avaient collaboré dans la déportation des Juifs ont été couverts à la libération. Ça a été le cas de René Bousquet, qui était le chef de la police de Vichy, mais également de Sabatier à Bordeaux, qui était préfet, et de son adjoint Maurice Papon, qui ont fait déporter 1700 Juifs et qui seront couverts à la libération. Donc ça a été une épuration à géométrie variable. Hein. Après, dans le deuxième chapitre, je traite le cas de la résistance méconnue de l'armée d'armistice, puisque alors, l'armée française avait été défaite en 40.
Dominique, ce qu'on va faire pour la deuxième partie justement de l'émission, on va faire une pause musicale. On va faire une pause musicale pour nos auditeurs, et puis on va revenir tout de suite après la pause pour justement avoir la suite qu'on attend tous avec grande impatience. Allez, on fait une pause musicale.
Eh ben
musique.
Voilà, sans problème. Voilà.
Allez, on fait
la pause.
On fait une pause musicale et on revient tout de suite après. Ce sera toujours dans le thème de l'émission, bien sûr. Vous avez l'habitude des auditeurs. Ce sera toujours dans le thème de l'émission. Allez, je vous dis à tout de suite.
À tout de suite.
Après cette pause musicale, chers auditeurs, dans un thème qui rejoint l'émission qu'on faisait, on est de retour avec Dominique Lormier. Oui, aujourd'hui, on a Dominique Lormier sur l'antenne. Pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de la radio, on a Dominique Lormier qui a l'habitude de venir nous voir et qui aura encore des belles émissions à faire avec nous sur de beaux ouvrages. Et aujourd'hui, on voit les vérités cachées de la France sous l'occupation, de 1914, 1918 jusqu'à 1940, 1945, les deux guerres qui nous ont, je dirais, beaucoup touchés en France, puisqu'il y a eu une guerre des tranchées d'abord, une guerre des tranchées qui a été horrible pour les militaires et ceux qui ont participé à cette guerre, puisque c'était une véritable boucherie ambulante. Et
oui.
Voilà.
Et la Seconde Guerre mondiale, qui a été une guerre mécanisée, voilà.
Voilà, mécanisée. Donc, et qui a touché les civils français, voilà.
Et également aussi, parce qu'il y a eu des civils qui ont été tués sous les bombes, il y a eu également la répression allemande et celle du régime de Vichy également, puisque le régime de Vichy, je tenais à ajouter à autre chose, c'est qu'il a également collaboré dans la lutte contre la résistance, puisqu'il y a eu la création de la milice, et qui a participé à des opérations aux côtés des Allemands, notamment contre le maquis des Glières et également contre des maquis, notamment dans le sud-ouest aussi, où la milice qui avait été créée par Darnan, qui était un ancien combattant de 14-18 nationaliste, mais qui a rejoint ensuite la collaboration, bien qu'étant germanophobe au début, mais finalement il était également très anticommuniste et très antisémite, donc il a rejoint la collaboration aux côtés des Allemands, et il a été le chef de la milice qui a participé à des actions répressives contre les maquis, la résistance et les juifs. Et le Bordeaux, justement, a été marqué par une affaire extrêmement importante qui a été l'affaire Grand Clément. Donc, on est toujours dans la thématique des vérités cachées de la France sur l'occupation. L'affaire Grand Clément, André Grand Clément était un des chefs de la résistance dans le Bordelais. Il dirigeait l'organisation civile et militaire, qui était une organisation extrêmement importante, notamment dans le sud-ouest de la France et dans le nord de la France. Et Grand Clément avait été fils d'amiral, il avait démarré comme militaire de carrière, puis après il est devenu agent d'assurance à Bordeaux, il était cours de Verdun, il s'était vaillamment battu en 1940 durant la bataille de Stone dans les Ardennes, au sein d'un régiment de tirailleurs sénégalais, puis il a repris ensuite son activité d'agent d'assurance cours de Verdun à Bordeaux, Et il s'est engagé dans la résistance au sein de l'organisation civile et militaire. Donc c'était une organisation qui dépendait pour les parachutages d'armes des services spéciaux anglais, ce qu'on appelait le Service Operation Executive, qui a été dirigé d'abord dans le Bordelais par Claude de Bessac et ensuite par Roger Land. Roger Land, qui malgré son nom à consonance française, était un agent britannique et qui s'était chargé des parachutages pour armer les maquis au moment des combats de la Libération. Et tout ça s'est fait sous la houlette également de Grand Clément, donc, qui était installé à Bordeaux. Et malheureusement, à partir de septembre 1943, Grand Clément et son organisation ont été décimés en partie par la Gestapo. À Bordeaux, vous aviez un agent de la Gestapo, un officier de la Gestapo, qui a été malheureusement très efficace. C'était Frédéric Wilhelm Dose. Et c'était quelqu'un d'extrêmement machiavélique. Il était installé au Bousca, avenue du Maréchal Pétain. Ça s'appelait avenue du Maréchal Pétain, qui est devenu avenue de la Libération, dans une grande demeure style Napoléon III, qui existe d'ailleurs toujours. Et c'était là où se trouvait le siège de la Gestapo, qui s'était installé à Bordeaux dès 1940, puisqu'on est stylé du fait que de la côte atlantique et que c'est un lieu hautement stratégique pour mener la guerre contre le ravitaillement maritime britannique dans l'océan Atlantique, et du fait que Bordeaux avait un port extrêmement important, où s'est installée d'ailleurs aussi une base sous-marine, qui a d'ailleurs d'abord, dans un premier temps, occupée par des sous-mariniers italiens et ensuite allemands. Et il y avait à Bordeaux également la base de Beutre-Mérignac, où il y avait des bombardiers Condor qui allaient bombarder donc les convois de la Navy, les convois britanniques et alliés, dans l'océan Atlantique. Et du fait également de l'importance de ces terres agricoles, Bordeaux était également une région stratégique pour le ravitaillement des troupes allemandes du fait de la richesse agricole de la région. Il y a eu aussi une collaboration importante au niveau du vin. Il faut savoir que la moitié des courtiers en vin, la moitié des officiers allemands étaient courtiers en vin dans le civil, donc il y a eu une collaboration aussi à ce niveau-là, assez importante. Et du fait également de son port stratégique, puisque le port de Bordeaux était un port un peu en retrait, où on a eu la construction d'un immense bunker permettant d'abriter des sous-marins allemands, qui existe toujours, la base sous-marine, et il y avait également dans un des autres bassins à flot des sous-marins italiens. Il y avait 32 sous-marins italiens et 27 sous-marins allemands qui ont participé à la guerre, à la bataille de l'Atlantique contre les convois alliés. Donc Bordeaux était véritablement une des places fortes, puisque Bordeaux, il faut savoir que toute la façade maritime de l'Atlantique a été occupée par les Allemands dès fin juin et début juillet 1940. On n'a pas attendu l'invasion de la zone libre dans le sud de la France. Donc c'était hautement stratégique, et Grand Clément donc lui était chargé, au sein de la résistance qui s'était formée dans le Bordelais, de renseigner les alliés sur l'implantation des unités allemandes et également de recevoir les armes qui étaient parachutées par les alliés et qui était planqué dans les forêts landaises. Il se trouve que la région du sud-ouest est riche en forêts, donc ça avait permis de constituer des maquis qui avaient commencé à se former à partir de 1943. Et ces maquis avaient également des dépôts d'armes qui avaient été parachutés par les Britanniques et qui étaient dispatchés dans les différentes, entre les Pyrénées et, je dirais, le Lot-et-Garonne et même la Dordogne. Vous aviez des maquis qui étaient constitués un peu partout et qui avaient des dépôts d'armes qui étaient cachés et qui avaient été parachutés par les Britanniques. Et Grand Clément, malheureusement, en septembre 1943, a été arrêté par les Allemands, puisqu'il y a eu notamment le réseau Prosper, qui était un réseau britannique, qui a été décimé dans la région de Paris et qui avait des liens profonds avec l'organisation de Grand Clément. Si bien que les Allemands ont eu connaissance de l'implantation de l'organisation de Grand Clément à ce moment-là, au moment de la destruction du réseau Prosper, et du fait que Churchill avait joué un rôle assez trouble dans cette affaire, puisque c'est ce qu'on a appelé l'opération Starke, c'était une opération d'intoxication pour tromper la Gestapo dans le sud-est de la France, pour leur faire croire qu'il allait y avoir un débarquement sur la côte aquitaine et non pas en Normandie. C'est en septembre 1943 qu'est montée cette opération par les services spéciaux anglais, ce qu'on a appelé l'opération Starke, et visant à faire croire aux Allemands qu'il allait y avoir un débarquement en 1943 des Alliés sur la côte aquitaine. Or, en vérité, c'était pour tromper les Allemands, pour que les Allemands fissent des divisions dans le sud-est de la France au moment où les Alliés allaient débarquer en Italie en septembre 1943. C'était pour empêcher l'arrivée de renforts allemands venant d'Italie et justement pour permettre l'arrivée des renforts allemands pour justement leur faire croire à un débarquement sur la côte aquitaine. Et ça a été le début de l'affaire Grand Clément. Donc le réseau de Grand Clément a été démantelé à ce moment-là. Et Grand Clément a été arrêté, il s'était enfui à Paris, il est revenu sur Bordeaux et il a joué un double jeu avec les Allemands, c'est-à-dire il a voulu obtenir la libération de ses hommes, plusieurs centaines de ses hommes qui avaient été arrêtés par les Allemands, moyennant la livraison de certains dépôts d'armes qui ont été livrés aux Allemands et qui avaient été parachutés par les Anglais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'armes qui ont été livrées aux Allemands par Grand Clément. Mais Grand Clément a essayé de jouer un double jeu dans cette affaire, puisque le but de ce jeu était surtout de permettre la libération d'une centaine d'hommes de son organisation qui avait été arrêtée par les Allemands. Et c'était également le cas de sa seconde épouse, Lucette, qui avait été également arrêtée par les Allemands. Et Dose, qui était le chef de la Gestapo à Bordeaux, a joué un rôle psychologique pour justement retourner Grand Clément. Et finalement, Grand Clément a été abattu par les services spéciaux anglais en juillet 1944, alors qu'il avait demandé à être jugé à Londres devant le général de Gaulle pour expliquer son double jeu qu'il avait joué dans cette affaire. Mais comme les Anglais n'avaient pas joué un rôle très clair aussi, eux aussi, dans cette affaire, donc Grand Clément a été abattu pour qu'il ne puisse pas révéler un certain nombre de faits. Voilà. Il y a eu le cas ensuite de l'affaire Jean Moulin. Là aussi, c'est toujours le cas de la France sous l'occupation, où Jean Moulin a été arrêté en 1943 par Klaus Barbie. Il sera ensuite, il va mourir dans le train qu'il amenait en Allemagne. C'était également une des grandes, l'unificateur de la résistance dans le sud-est de la France, mais même dans toute la France, avec Pierre Brossolette qui avait unifié la résistance. Ensuite, il y a eu des Français qui se sont engagés dans la Gestapo, qui ont travaillé pour les Allemands. On estime qu'il y a eu à peu près 30 000 Français qui ont travaillé pour les services allemands. Il y a eu le cas notamment de Lucien Déhan, qui a été notamment installé justement sur Bordeaux et qui a travaillé pour les Allemands. Jacques de Zoubry également, ainsi que d'autres personnalités que je cite dans mon livre. Il y a eu également des Français qui se sont engagés dans la division Charlemagne. J'en avais d'ailleurs connu un, j'avais eu l'occasion d'en interviewer au EV1, Roger Pujol, qui s'était engagé dans la division Charlemagne, par anticommunisme et qui s'était battu sur le front russe. Il y a eu à peu près 30 000 Français qui ont combattu aux côtés des Allemands à partir de 1941-42 au sein de la Légion des volontaires français et à partir de 44 au sein de la division Waffen-SS Charlemagne. Donc ça fait partie aussi d'un aspect sombre, d'une partie sombre de cette période. Il y a eu également l'opération Frankton, qui a été une opération menée par les commandos britanniques pour couler des navires allemands dans l'estuaire de la Gironde, qui a été un succès d'ailleurs, Bien que la plupart du commando britannique a été tué ou capturé, néanmoins ça a amplifié l'importance du port aux côtés pour les Allemands. Puis il y a eu également aussi le sauvetage des Juifs par un certain nombre de Français. Il y a eu un certain nombre de Français qui ont participé au sauvetage des Juifs, puisqu'il y a eu à peu près 75% des Juifs sauvés en France, du fait qu'il y a eu ce qu'on appelait les Jus, c'est-à-dire ces Français qui avaient refusé de collaborer avec les Allemands et qui ont caché des Juifs pendant l'occupation. Il y a eu à peu près 50% des Juifs étrangers et se trouvant en France, et 90 à 95% des Juifs français qui ont été sauvés de la déportation grâce à ces Jus qui ont protégé des Juifs, caché des Juifs durant l'occupation. Je parle notamment de Charles de Lespinasse et de Berthe, son épouse, qui ont participé. Il y a eu le père Benoît également qui a participé au sauvetage des Juifs. Il y avait Monseigneur Saliège à Toulouse, parce que il faut savoir que les chrétiens se sont pas mal engagés pour protéger les Juifs. Ils n'avaient pas oublié que Jésus était juif à l'origine, donc ils ont participé également au sauvetage des Juifs. Il y a eu des protestants, des catholiques, il y a eu bien sûr les rabbins aussi, qui avaient pris la clandestinité et qui ont participé au sauvetage des Juifs. Donc il y a eu un important, sauvetage des Juifs au niveau du territoire français. Il y a eu une autre figure emblématique de la résistance à Bordeaux, j'en parle dans le livre, c'est Jacques Chaban-Delmas, qui sera maire de Bordeaux pendant plus de 40 ans, et qui était rentré au réseau Hector, qui était un réseau de la résistance qui avait été créé en septembre 1940. Il a rejoint ce réseau, puis ensuite il a fait partie du BCRA, le Service Spécial de la France Libre, où il a travaillé comme délégué militaire national de la résistance à partir de 43-44, c'est-à-dire qu'il avait véritablement, je dirais, la direction de la résistance au niveau intérieur. Avec le général Koenig, lui qui commandait ce qu'on appelait les forces françaises de l'intérieur. C'est-à-dire Chaban s'occupait surtout des réseaux qui étaient chargés de renseigner les alliés ou de permettre les évasions des prisonniers de guerre alliés ou des résistants français. Et les forces françaises de l'intérieur qui ont été créées sous la houlette du général Koenig, qui était un héros de la France libre, et qui ont regroupé ce qu'on a appelé l'organisation de résistance de l'armée, qui était les militaires de carrière qui avaient rejoint la résistance, l'armée secrète qui regroupait des gens de différentes origines politiques, qui étaient sous la houlette du général de Gaulle, et les francs-tireurs partisans, qui étaient des communistes qui étaient entrés dans la résistance, avec une figure emblématique dans le sud-ouest, qui a été Georges Guingouin, qui a été une des grandes figures de la résistance également, et qui a mené des combats héroïques pour la libération du territoire, et avec également, notamment dans les Pyrénées, le fameux corps Franc-Pommiès, issu de l'organisation de la résistance de l'armée, qui a participé aussi à la libération du territoire français. Voilà donc, je dirais, des passages durant ces 45 minutes donc d'émission qui nous donnent, je dirais, un éventail assez complet des vérités cachées de la France sous l'occupation.
Alors, justement, puisqu'on parle des vérités cachées, puisqu'on parle de la France sous l'occupation, quel est le rôle de l'Italie un petit peu dans tout ça? Parce que l'Italie est un pays avec Mussolini qui a collaboré largement à la guerre, mais quel était son rôle, son implication dans la guerre?
Alors, l'implication de l'Italie dans la guerre, il faut savoir que d'abord, au début des années 30, Mussolini était plutôt hostile à Hitler parce qu'il était favorable à l'indépendance de l'Autriche, parce qu'il estimait que c'était un tampon entre l'Allemagne et l'Italie. Et du fait qu'il y avait quand même des différences idéologiques entre le fascisme italien, qui au départ n'était pas antisémite et ni raciste, qui était plutôt d'ailleurs germanophobe, parce qu'il ne faut pas oublier que Mussolini avait fait la Première Guerre mondiale aux côtés des Français. Il s'était battu dans Cordelli des Bersaglieri, où l'Italie avait combattu à nos côtés. Il y a eu 700 000 soldats italiens tués durant la Première Guerre mondiale, à la frontière italo-autrichienne, en zone de montagne, donc une guerre très âpre, et la bataille de Vincenzo était une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, du côté de la région de Trieste, où on combattu avec beaucoup de courage les troupes italiennes. Mussolini était issu du Parti Socialiste, il avait été une des figures de proue du Parti Socialiste italien, durant la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale. Puis il a rejoint ce qu'on a appelé les interventionnistes, c'est-à-dire ces Italiens qui voulaient que l'Italie entre en guerre aux côtés des Alliés contre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Et donc il a rompu avec les socialistes neutralistes pour rejoindre les socialistes interventionnistes et il a fondé son propre journal. Il avait été d'abord directeur du journal L'Avanti, qui était le journal du Parti Socialiste Italien, et il a fondé ensuite le Il Popolo d'Italia, qui était le journal interventionniste, qui regroupait ceux qui avaient rejoint Mussolini pour l'entrée en guerre de l'Italie en 1915 aux côtés des Alliés, ce qui a joué un rôle important puisqu'il y a eu 60 divisions autrichiennes qui n'ont pas pu venir sur le front français parce qu'elles ont été fixées par les troupes italiennes sur le front des Alpes. Et Mussolini a combattu dans le corps des Bersaglieri, un corps d'élite de l'armée italienne, l'équivalent des chasseurs à pied dans l'armée française. Et il a été blessé en 1917. Et à ce moment-là, à partir de 1919, il va fonder ce qu'on appelait le fascisme, le parti fasciste italien, qui était composé à la fois de gens issus de la gauche et de gens issus de la droite. Donc c'est un parti d'ailleurs qui prend pour emblème le faisceau des lecteurs, c'est-à-dire il unit différentes forces de différents courants. Et il y avait ce qu'on appelait les syndicalistes révolutionnaires qui étaient issus de la gauche et qui ont rejoint un parti le fascisme italien, et il y avait les nationalistes plutôt de droite qui ont rejoint également le fascisme. Donc le fascisme était à la fois, je dirais, une composante à la fois de droite et de gauche, comme l'a été d'ailleurs Mussolini dans son évolution politique. Et durant les années 30, d'abord, Mussolini est plutôt favorable à la France et à la Grande-Bretagne. Il s'inquiète de la montée du nazisme, il est plutôt germanophobe, et surtout qu'il défend l'indépendance de l'Autriche. Il va être à l'origine des accords de Stresa en 1934, qui visent en quelque sorte à faire barrage à la montée de l'hitlérisme en créant une alliance qui aurait dû regrouper notamment la France, la Grande-Bretagne, la Russie de soviétique et également l'Italie pour encercler Hitler, pour l'empêcher de vouloir mener, je dirais, une politique d'expansion territoriale, comme il va le faire à l'encontre de la Tchécoslovaquie et ensuite de la Pologne, ce qui déclenchera la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il va y avoir un basculement de Mussolini au moment de la campagne d'Éthiopie. Mussolini désire envahir l'Éthiopie, il veut avoir également son empire colonial. Alors l'Italie avait depuis 1911 la Libye, elle avait également la Somalie, mais elle voulait aussi occuper, elle avait également l'Érythrée aussi, qui faisait partie des colonies italiennes, et elle voulait s'emparer de l'Éthiopie. Donc en 1935, elle a envahi la campagne d'Éthiopie de 1935 à 1936, et à ce moment-là, avec la création de la SDN, la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, les Français et les Britanniques ont voté des sanctions économiques contre l'Italie, et Mussolini n'a pas du tout supporté le vote de ces sanctions. Il estimait que la France et la Grande-Bretagne, qui étaient les deux plus grandes puissances coloniales de l'époque, étaient mal placées pour donner des leçons d'anticolonialisme aux Italiens. Il a été tellement écœuré que finalement il s'est rapproché d'Hitler. Il s'est également rendu compte surtout que les Français et les Britanniques étaient dans une posture défensive et non pas offensive vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne, qui ne pourrait pas, je dirais, aider véritablement l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne si elles étaient attaquées. La France avait construit la ligne Maginot à ce moment-là, donc il s'est de plus en plus tourné vers Hitler, d'autant plus qu'il y avait quand même, je dirais, des liens idéologiques avec les deux régimes. C'était deux régimes nationalistes, deux dictatures également, bien que le régime de Mussolini est une dictature, je dirais, assez particulière, parce que c'est en vérité une triarchie, c'est-à-dire que Mussolini n'a pas les pleins pouvoirs. Contrairement à Hitler, lui qui a la totalité des pouvoirs en Allemagne, Mussolini, véritablement, l'Italie est partagée entre trois pouvoirs durant le régime des 20 années du régime fasciste. Il y a la papauté, avec qui d'ailleurs Mussolini va signer les accords du Latran, mettant fin au conflit qui existait territorial depuis le 19e siècle avec les créations de l'unité italienne. Donc il y a eu véritablement à ce moment-là les accords du Latran durant les années 20 entre Mussolini et le pape. Donc le pape avait également, je dirais, un pouvoir extrêmement fort en Italie. Il y avait le roi également qui avait encore son pouvoir. La monarchie n'avait pas été renversée par Mussolini. Et il y avait Mussolini qui avait un pouvoir politique. Le roi avait un pouvoir également politique également. Donc c'était véritablement partagé entre trois pouvoirs en Italie. Et d'ailleurs, la particularité, c'est que lorsque Mussolini a été désavoué par la Chambre des faisceaux, qui était en quelque sorte le parlement, entre guillemets, du régime de Mussolini, mais qui était composé uniquement de chemises noires du régime fasciste, puisque Mussolini, à partir des années 30, a mis fin au pluralisme politique, etc., des partis. Lorsqu'il a voulu, en juillet 1943, consulter cette chambre des faisceaux, il a été mis en minorité. Il a été mis en minorité, donc il est allé voir le roi, et le roi l'a fait arrêter. Ce qui est une chose totalement impensable au sein du régime hitlérien. On imagine mal Hitler aller voir le roi de Prusse et se faire arrêter. D'ailleurs, le roi de Prusse était, je dirais, il se trouvait, d'ailleurs, le Kaiser était décédé, mais il y a eu ensuite son fils et il se trouvait en Hollande. Hein, ils avaient été contraints à l'exil. Hitler avait la totalité des pouvoirs entre les mains avec Himmler et également Göring. Alors que Mussolini était partagé donc entre la papauté et également la monarchie. Et la monarchie finalement l'a fait arrêter. Il a été arrêté. Il sera libéré ensuite par les Allemands par un commando sous les ordres de Skorzeny. Mais après, il ne sera plus que, je dirais, une marionnette entre les mains d'Hitler dans ce qu'on a appelé la République sociale italienne, qui a été créée en 1943-44 et qui était constituée des derniers, je dirais, fidèles de Mussolini et qui ont lutté jusqu'au bout aux côtés des Allemands. Finalement, Mussolini va être arrêté par des partisans communistes et il sera finalement abattu à ce moment-là en avril 1945. Néanmoins, il y a effectivement des divergences, je dirais, idéologiques entre le national-socialiste. Il faut savoir qu'il y a eu quand même 85% des Juifs sauvés en Italie, puisque dans leur zone d'occupation, et Mussolini a refusé de livrer les Juifs aux Allemands, même s'il y avait eu des lois raciales qui avaient été promulguées en mars 1938, mais Mussolini n'est pas allé jusqu'à les faire déporter et les envoyer dans des camps d'extermination. Ça a été le cas des Allemands à partir de 1943, lorsque les Allemands occupaient l'Italie après l'arrestation de Mussolini par le roi. Et c'est ensuite sa libération ensuite par un commando allemand, mais néanmoins Mussolini n'avait plus les rênes de pouvoir à ce moment-là, il était totalement sous la dépendance d'Hitler. Voilà. Donc il y a eu une collaboration bien sûr militaire, parce que l'Italie était entrée en guerre en juin 1940 aux côtés de l'Allemagne, et Mussolini a mené surtout ce qu'on a appelé une guerre parallèle, c'est-à-dire contre les Britanniques en Afrique du Nord. Mussolini voulait s'arroger des territoires britanniques, notamment l'Égypte, et également les territoires britanniques en Afrique orientale. Donc il y a eu les combats en Afrique orientale entre les Italiens et les Britanniques. Finalement, ça s'était terminé au bénéfice des Britanniques, après une résistance acharnée d'ailleurs des troupes italiennes, notamment à la bataille de Keren, où il y a une qu'on a considéré comme le Verdun d'Afrique orientale, où les troupes italiennes ont opposé une résistance acharnée. Et en Afrique du Nord, ça a été le combat donc entre les Italiens, ensuite secourus par les Allemands, avec le maréchal Rommel, et qui a perduré jusqu'en 1943 avec l'acte de reddition finale en Tunisie des troupes italiennes et allemandes, avec la participation des forces françaises libres qui se sont illustrées à la bataille de Bir Hakeim et ensuite de l'armée d'Afrique durant la campagne de Tunisie aux côtés des Britanniques et des Américains. D'accord. Et à ce moment-là, la Sicile a été libérée par les Alliés et puis ensuite la remontée des troupes alliées en Italie où s'est illustré d'ailleurs le corps expéditionnaire français du général Join qui a joué un rôle essentiel dans la libération de Rome, puisque ce sont les Français qui, près du Monte Cassino, ont percé les défenses allemandes en 1944 et permis la libération du sud de l'Italie. Voilà. Donc voilà ce qu'a été la participation italienne. L'Italie s'était engagée dans la guerre dans les Balkans également. Elle avait attaqué la Grèce et la Yougoslavie. Donc il y a eu à peu près une trentaine de divisions italiennes qui ont été fixées dans la guérilla contre les partisans grecs et également yougoslaves. Et il y a eu également un corps expéditionnaire italien qui s'est battu aux côtés des Allemands en Russie. Il y a eu près de 300 000 soldats italiens qui sont battus en Russie, dont à peu près 80% ne sont jamais revenus. Ils ont été tués ou capturés sur le front russe. et où s'est illustré d'ailleurs le corps alpin italien qui s'est battu avec une grande bravoure puisqu'ils ont réussi à percer à 11 reprises les positions soviétiques et rejoindre l'Italie après avoir subi des pertes terribles puisqu'ils se sont battus sous moins 40 degrés contre les troupes soviétiques à l'ouest du front de Stalingrad. Donc l'Italie a été présente sur différents fronts et a participé à des combats acharnés aux côtés de l'Allemagne. Et à partir de 1943, il y a une Italie divisée en deux. Il y a l'Italie du Sud qui combat aux côtés des Alliés et l'Italie du Nord qui continue à poursuivre la guerre aux côtés des Allemands avec ce qu'on a appelé la République sociale italienne, la République de Salo à cause du fait que le régime de Mussolini s'était réfugié dans la ville de Salo, qui est une station balnéaire près du lac de Garde en Italie, dans le nord de l'Italie, et qui a poursuivi les combats aux côtés des Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est une Italie divisée en deux. Il y a l'Italie du Sud, où vous avez à peu près 300 000 soldats italiens qui combattent aux côtés des Alliés, et ce qu'on appelait l'armée italienne du Sud, l'armée italienne de libération. Et dans le nord, il y a l'armée italienne du Nord qui combat aux côtés des Allemands, à peu près le même nombre de combattants italiens, puis également la constitution de ce qu'on appelait les maquis qui combattaient aux côtés des Alliés dans le nord de l'Italie et qui menaient la guérilla contre les Allemands et les unités fascistes italiennes, ce qu'on a appelé les partisans, les partigiani, qui ont combattu jusqu'en avril 1945, donc en menant des actions de sabotage et d'embuscade contre les Allemands. Donc on peut dire que les troupes de Mussolini à ce moment-là étaient prises entre deux feux, dans le dos par les partisans et de face par les troupes alliées. Donc ça a été, je dirais, un bilan, je dirais, tragique pour l'Italie à ce moment-là, en 1945. D'accord. Et du fait que pas mal de villes italiennes avaient également été bombardées par les alliés, pas mal de villes qui ont été durement endommagées par les bombardements. Voilà ce qui a été le rôle de l'Italie en cette période-là aussi.
Merci Dominique, merci. Alors, on arrive au terme de l'émission, on est même un petit peu en retard. Merci beaucoup pour ce beau témoignage sur ce beau livre qui est sorti quand ?
Alors, il est sorti, je vais vous le dire tout de suite, on le trouve encore en librairie, donc en grand format.
Hein. Ouais, d'accord.
Il est sorti en 2021, mais on le trouve encore en librairie. Oh, oui. Hein, et en livre poche, il est sorti en 2023, donc on le trouve également en poche partout aussi.
D'accord. Alors, achetez ce livre, il est très intéressant. Vous avez vu l'émission, c'est passionnant. Donc, achetez ce livre. D'ailleurs, tous les ouvrages de Dominique Lormier, je vous les conseille. Ce sont de très beaux ouvrages de l'histoire de France avec de l'inconnu dedans. Tout ce que vous ne savez pas, vous pourrez le découvrir dans ces livres. Donc, je vous les conseille fortement. Voilà, merci beaucoup, Dominique. Merci.
Merci, et puis à bientôt, Patrice.
Voilà, et à bientôt pour une nouvelle émission. Surveillez bien.
Avec plaisir.
Surveillez bien sur les portes de la connaissance d'O2 Radio sur le site Facebook. Les prochaines émissions qu'il y aura, surveillez bien. Allez-y,
Valérie. Voilà, la prochaine émission, ça sera sur les vérités cachées de la résistance.
Voilà.
Parce que là, on a parlé de l'occupation, de la collaboration, et dans la prochaine émission, on parlera de l'action active de la résistance française dans la victoire des Alliés.
D'accord, et on aura une émission sur l'espionnage aussi, c'est ça ?
Voilà, après on aura une émission sur l'espionnage, ça sera la troisième émission. Ensuite, la quatrième émission, ça sera sur les vérités cachées de la guerre d'Algérie.
Bon, voilà. Alors vous voyez, vous avez de quoi avoir de l'histoire, je dirais, pas que de France, mais de l'histoire. Et voilà, vous allez avoir de très belles émissions avec Dominique. Merci Dominique, merci.
Eh ben merci Patrice. Merci, au revoir.
Allez, au revoir chers auditeurs, à bientôt, à vendredi prochain. Au revoir. Porte de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.